Et l'on débute avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La direction de General Electric propose aux salariés de Belfort de supprimer 500 postes au lieu de 800 initialement. Un vote à main levée est prévu ce matin. Les syndicats sont divisés. Tous les billets de train seront remboursés à 100%. Nous reviendrons aussi sur le conflit et les perturbations à la SNCF.
Les Français au Chili sont appelés à rester chez eux ou à l'hôtel. Les émeutes dans ce pays ont déjà fait 7 morts.
De l'autre côté de la frontière, en Bolivie, le président sortant est donné en tête de l'élection selon des résultats partiels. Il y aura probablement un second tour et c'est inédit, nous dira notre correspondante sur place. Et la question du jour, Guillaume ?
Eh bien, la défiance vis-à-vis des vaccins, où en est la couverture vaccinale ? On posera la question à un professeur de pharmacologie de l'université Paris-Est Créteil, Hervé Lelouette.
Que vont décider les salariés de General Electric à Belfort? Ils sont appelés à voter à main levée ce matin pour départager les deux nouvelles options de plan social proposées par la direction ces derniers jours. La première consiste à réduire de 111 postes l'objectif initial qui est d'environ 800. La seconde à le réduire de 300 postes mais au détriment de leurs acquis sociaux. Un choix difficile pour certains salariés qui depuis une dizaine de jours bloquent les ateliers de production des turbines à gaz. Le délégué CGT Fabrice Chira, lui, hésite à aller voter.
S'il y a ces 300 postes de sauvés, je pense que le fait qu'on bloque depuis 10 jours, ça y est pour quelque chose quand même. Et tous les acquis sociaux qui voulaient nous grignoter, bon, faut reconnaître qu'il y a une partie, la direction est revenue dessus. Mais nous, ce qui passe pas, c'est encore la RTT qu'on va remettre en cause. Et puis la compétitivité qui va être contractée à nos augmentations de salaire tous les ans. Donc nous, compétitifs, on l'est. Maintenant, faut nous donner les moyens d'y être. Ça passe pas, je veux dire, c'est 25 ans de lutte. Les acquis, ils sont pas tombés du ciel. Les gens ont déjà perdu des heures de grève, des anciens se sont battus pour tout ça. Donc non, là, on touche à cœur, on nous touche à vif, là. C'est pas possible.
On l'entend, la CGT n'est pas convaincue par ce nouvel accord. L'ambiance risque d'être tendue à Belfort ce matin, maintenant que les syndicats sont divisés, Lila Lefebvre.
Ce nouvel accord a fait éclater l'intersyndicale, comme on a pu le constater à la manifestation de samedi. La CGT a clairement annoncé qu'elle le refusait et a dénoncé la volonté des deux autres syndicats, CFE-CGC et Sud, de signer. Un divorce assumé, puisque la CGT a même préféré défiler seule. De leur côté, CFE-CGC et Sud ont rappelé que rien n'était encore fait. Mais pour eux, il faut voir le verre à moitié plein. Avec ce nouvel accord, ce serait 500 postes supprimés au lieu de 800 à l'origine dans l'entité Turbine à gaz d'ici fin 2020. Il faut maintenant réfléchir en termes de postes conservés et non de départ, ajoute-t-on à Sud. Face à cette désunion, les syndicats veulent donc s'en remettre aux salariés. Aujourd'hui, en Assemblée Générale, la décision de voter le texte sera prise à ce moment-là. Ensuite, les syndicats signeront en conséquence. Si la réponse est positive, on s'achemine vers 5 nouvelles semaines de négociations. La CGT n'y participerait pas, mais pourrait avoir un poids dans les discussions.
Lila Lefebvre de France Bleu, Belfort-Montbéliard. Le conflit perdure aussi à la SNCF. La compagnie ferroviaire promet une nette amélioration du trafic aujourd'hui. Seuls les TER et les intercités devraient connaître des perturbations. Le trafic des TGV et des Ouigo sera normal, a assuré hier soir le président de la SNCF, Guillaume Pépi. Il a également annoncé un remboursement à 100% de tous les billets sans exception, même les tickets à l'origine non remboursables.
Alors, à grève exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. J'ai décidé deux mesures très simples. La première, c'est que tous les billets, sans exception, sont intégralement remboursables à 100%, même si il y a marqué dessus non échangeable, non remboursable, ou même si ce sont des billets Ouigo. Il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à voyager ou dont le train a été supprimé. Donc, 100% de remboursement. Et puis, la deuxième mesure, qui est tout à fait exceptionnel, c'est que j'ai décidé de créer un fonds d'indemnisation doté d'1 million d'euros pour nos voyageurs qui ont eu des dommages exceptionnels, par exemple des gens qui ont perdu une nuit d'hôtel ou qui ont dû dépenser une nuit d'hôtel, des gens qui ont été obligés de prendre un autre billet de train et qui ont payé un autre billet de train, voire un billet d'avion. Bref, des gens qui, parce qu'ils partaient en week-end, en vacances ou qu'ils se déplaçaient en grande ligne, ont, du fait de cette grève surprise, eu un dommage particulier.
Guillaume Pépi, hier soir sur France Info, les perturbations ont commencé vendredi, 2 jours après un accident entre un TER et un convoi routier à un passage à niveau sur la ligne Charleville-Mézières-Reims. Le conducteur lui-même blessé a porté secours aux passagers. Il était alors le seul agent SNCF à bord du train. Depuis, les cheminots font valoir leur droit de retrait. C'est plutôt une grève surprise pour la direction. L'un des grands actionnaires du journal Le Monde, l'homme d'affaires Mathieu Pigas, quittera en fin d'année la banque Lazard. Il démissionne de son poste de PDG de la filiale française. La nature de son prochain projet n'est pas encore connue.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le Chili est en guerre, a déclaré hier le président du pays.
Un pays qui connaît des émeutes et des pillages depuis 3 jours, les pires depuis des décennies. 7 personnes sont mortes. Samedi, le président Sébastien Piñera a suspendu la hausse du prix des transports en commun. C'est cette annonce qui avait provoqué le début des manifestations. Mais la colère ne faiblit pas. L'état d'urgence a été étendu hier soir à plusieurs grandes villes. Cécile Fallier, professeur agrégé de l'École normale supérieure et spécialiste du Chili.
Piñera revient sur une mesure qui était très contestée. Au Chili, en fait, il y a eu des mouvements étudiants déjà assez forts en 2010, puis en 2012. Il était revenu en fait sur les mesures qu'il proposait suite à des manifestations de rue, alors qui étaient un peu moins violentes et aussi moins réprimées que celles-ci, puisque là, il a quand même mis en place un état d'urgence. Et je pense que non, ça va pas suffire à calmer la situation, qui est bien plus compliquée en profondeur que le simple prix du ticket de transport, en fait. Le Chili est un des pays les plus inégalitaires au monde. Il y a vraiment des très fortes inégalités au sein de la société qui se manifestent parmi les étudiants. Étudiants qui sont quand même assez soutenus par l'ensemble de la population. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des amis qui sont pas forcément toujours très impliqués dans tous les mouvements, mais là, ils sont très remontés et ils sont d'accord avec les étudiants et avec les manifestations, quoi. Et contre l'envoi des militaires dans les rues qui a été très mal vécu, hein. Vécu comme un retour dans les années 70-80 au moment de la dictature du général Pinochet, en fait.
Cécile Falliès, des propos recueillis par Alicia Miami. L'ambassade de France au Chili appelle les ressortissants de l'Hexagone à rester prudents. Le ras-le-bol aussi des Libanais. Hier, pendant cette 4e journée de mobilisation, des centaines de milliers de manifestants ont défilé. Les Libanais, confrontés à des difficultés économiques, accusent la classe politique d'incompétence et de corruption. Contrairement à la crise des déchets en 2015, cette fois, ils remettent en cause tout le système. Et c'est inédit. L'analyse de Nadim Houri, directeur exécutif du groupe de réflexion Initiative pour la réforme arabe.
On a les prémices là d'un vrai mouvement historique au Liban. Ce sont pas simplement les classes moyennes qui sont mobilisées, mais vraiment les classes populaires et même certaines élites en guillemets. Et là, pour la première fois, les manifestants sont en train de nommer les corrompus, en train de dire « on veut plus de vous ». Donc là aussi, c'est très important, on a franchi un cap. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une espèce de sagesse collective où les manifestants sont en train de dire à la classe politique, on n'a plus confiance en vous, on veut plus de vous, tout court, on vous croit plus, vous nous avez promis des réformes dans le passé, vous n'avez jamais tenu promesse, et aujourd'hui, on veut que vous dégagez. Parce que si vous voulez, le fond de cette crise, c'est vraiment une crise socio-économique. Les gens commencent à être vraiment pauvres, ils veulent du changement. Ils se rendent compte que cette classe politique sectaire, tout ce qu'elle faisait, c'est remplir ses poches. Mais quelque part, ils acceptaient cela dans le passé, tant qu'il y avait un petit peu, disons, des retours qui leur retombaient, ou parce qu'ils avaient peur des autres communautés. Mais la situation s'est tellement empirée que aujourd'hui ils disent, on veut un changement, on veut des compétences. Maintenant, le grand challenge et la grande question, c'est est-ce que ce mouvement va pouvoir durer? Parce qu'on sait que la classe politique libanaise ne va pas s'en aller facilement. Mais jusqu'à présent, il y a une solidarité impressionnante. Comme on l'a vu récemment en Algérie, au Soudan, ce sont des manifestations aujourd'hui sans leader. C'est vraiment spontané. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que dans un pays aussi divisé que le Liban, on est en train de voir des solidarités interconfessionnelles et entre les régions. Maintenant, il faut voir comment est-ce que ça va durer, est-ce que ça va se développer en mouvement politique à long terme.
Et le gouvernement libanais devrait aujourd'hui annoncer des réformes attendues depuis longtemps par la population. Des géants pharmaceutiques seront jugés à partir d'aujourd'hui devant le tribunal fédéral de Cleveland, dans l'Ohio. Des milliards de dollars sont en jeu. 2300 plaignants les accusent d'avoir attisé la crise des opiacés pour faire du profit. Les opiacés font plusieurs dizaines de morts par overdose chaque jour aux États-Unis. Nous irons outre-Atlantique dans le journal de 7h30. Un ancien président bolivien pourrait pourrait faire trébucher l'actuel chef de l'État. D'après les premiers résultats, Carlos Mesa, à la tête du pays entre 2003 et 2005, s'est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle hier. Il arriverait juste derrière l'actuel président Evo Morales, le mettant ainsi en ballottage, une première en plus d'une décennie. En Bolivie, la correspondance d'Alice Campagnol.
Selon les résultats préliminaires, Evo Morales, le géant politique au pouvoir depuis 13 ans, ira au second tour pour la première fois de sa carrière. Avec 45% des voix, il est en tête mais mis en ballottage par Carlos Mesa du mouvement Communauté Citoyenne qui a quant à lui obtenu 38% des suffrages. L'émotion était palpable au QG du candidat pour qui ce second tour est une victoire démocratique.
La démocratie est une valeur fondamentale pour laquelle nous luttons depuis tant d'années. C'en est terminé du parti unique, du clientélisme et de l'hégémonie. Le second tour est le chemin vers la victoire. Ce chemin qui va nous amener au pouvoir pour la période 2020-2025 grâce au vote des Boliviens et des Boliviennes. Ce soir, nous avons triomphé.
Le candidat a majoritairement obtenu le vote des jeunes et des citadins. Cet ancien journaliste a déjà un passé politique pas vraiment brillant. Il a été vice-président de Gonzalo Sanchez de Lozada, qui en 2003 a quitté le pays après avoir ordonné la répression de manifestations, répression qui a fait plusieurs dizaines de morts. Carlos Mesa a donc assuré la présidence, mais l'a abandonné après 2 ans d'exercice. Il n'avait en effet pas de majorité au Parlement. Il faut maintenant attendre les résultats définitifs, mais il semblerait que rendez-vous soit donné le 15 décembre prochain pour un second tour sans précédent.
Les précisions d'Alice Campagnol. Nous reviendrons sur la situation politique en Bolivie dans la revue de presse internationale de Camille Magnard à 7h35. Quelques minutes avant, à 7h24, le reportage de la rédaction sera consacré aux élections au Canada. Plus de 27 millions d'électeurs sont appelés à choisir leurs députés aujourd'hui. Les bureaux de vote ouvriront dans quelques heures. Le premier ministre actuel, le libéral Justin Trudeau, pourrait perdre sa majorité absolue. Il termine son mandat affaibli par plusieurs scandales. Celui qui avait créé la surprise en 2015 n'est plus aussi populaire aujourd'hui. Le temps est variable. Ce lundi, ce sera gris et pluvieux sur les côtes de la Manche, le Jura et des Alpes à la Côte d'Azur. Une météo qui s'annonce plus agréable et ensoleillée en Corse malgré les nuages. Météo France prévoit entre 7 et 8 degrés seulement ce matin en Bretagne, entre 9 et 12 ailleurs. Vous aurez au maximum cet après-midi 14 degrés à Lille, 15 à Paris, 16 degrés à Strasbourg, 21 à Nice et 25 à Ajaccio.